RMC, 6h-7h.
Rien ne conviendra mieux en ce jour pour moi, jardinier du roi,
votre jardin,
de recevoir quelques conseils sur des plantes vivaces.
François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 6h17, nous voilà. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur RMC en ce 8 décembre 2018. Bien évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. On va passer ce samedi matin ensemble jusqu'à 10h avec, vous le savez, vos experts qui seront là. Tout à l'heure avec Raphaël Grably, on évoquera les smartphones à quelques jours de Noël. Peut-être avez-vous envie de vous offrir ou d'offrir un smartphone. Comment choisir? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? Est-ce qu'il y a des bons plans dans le domaine des smartphones? Ce sera tout à l'heure. Avec notre rendez-vous santé en compagnie de Christian Akia, on va essayer de vous donner des conseils pour éviter de tomber malade. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein d'épidémies, gastro, grippe, etc. Voilà, on vous rappellera les bons gestes à avoir. Et puis dans notre rendez-vous maison, tout à l'heure entre 7h et 8h en compagnie de Christian Pesset, on évoquera, juste avant la fin de cette année 2018, les opportunités fiscales et financières immobilières. Voilà, vous allez voir, c'est un sujet assez intéressant. Vous pourrez poser vos questions à notre invité en compagnie de Christian, bien sûr, et bien évidemment, toutes vos questions bricolage maison déco dès 7h. Mais dans l'immédiat, il est à mes côtés, c'est Patrick Mulan pour le jardin. Monsieur Miu Miu, bonjour.
Monsieur François, bonjour, bonjour à tous. Très bienvenue dans nos petits jardins qui sont un peu ensommeillés. Voilà, mais ils ont bien pris parce que ils ont eu de l'eau et donc ça leur a fait bien plaisir.
Eh ben voilà, écoutez, tout va bien. Vous nous direz s'il va falloir quand même un petit peu s'inquiéter des températures dans les jours qui viennent avec la météo du jardinier, hein. Voilà, bah écoutez, on se rapproche de l'hiver. Vraiment, là, on rentre dans le dur.
Un dur
sur le calendrier,
moyen.
Je disais, hein.
Peut-être pas. Moyen,
ouais. Voilà, un dur moyen, c'est ça. On verra ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, toutes vos questions jardin dès maintenant, hein, le 32-16 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Simone nous attend, hein. D'ailleurs, on va la retrouver dans une minute. En plus, j'ai pas mal de choses à vous annoncer, hein. Tout à l'heure, il y aura notre grand jeu de Noël. Vous le savez, tout au long de la semaine sur RMC, à l'approche des fêtes, on vous offre de très très beaux cadeaux. Ça va être aussi le cas le week-end sur RMC. Je vais tout vous expliquer dans quelques minutes. Comment choisir son sapin de Noël? Ah bah oui, naturel ou artificiel, c'est peut-être maintenant qu'il faut s'en préoccuper, les amis. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez acheter votre sapin. Eh bien, avec Patrick, on va vous donner des conseils et vous pourrez poser toutes vos questions sur ce sujet. Les coups de cœur aussi, hein, Patrick, de cette semaine.
Voilà, il y aura un livre et il y aura une visite à faire.
Eh bien voilà, parfait. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts et le jardin. Et on débute avec le conseil de l'expert. Comment protéger les plantes du froid? On l'évoquait il y a un instant à peine, hein, Patrick.
Oui, il y a quelques retours de gelée qui sont annoncés pour la semaine à venir. Ah. Donc effectivement, il faut quand même essayer de prendre un peu de précaution.
Alors d'une manière générale, Patrick, quelles sont les précautions à prendre avec les plantes frileuses dans le jardin et sur le balcon?
Alors celles que vous ne pouvez pas rentrer, ou du moins celles qui n'aiment pas beaucoup être dans la maison. Par exemple, tout ce qui est agrumes, tout ce qui est donc citronniers, etc. Si vous les mettez dans la maison, vous allez avoir une chute de feuilles importante. Les plantes, elles vont se trouver dans une atmosphère sèche qui leur plaît pas, un peu trop chaude, etc. Donc le mieux, bah, c'est d'utiliser le voile d'hivernage, qui est quand même la base même, on va dire, du...
Le petit pyjama.
Voilà ce que François appelle le petit pyjama, et qui est un peu ça. C'est une petite couverture, c'est un châle, si vous voulez. Et donc ça, vous pouvez, en fonction de la température extérieure, faire envelopper un tour, deux tours, trois tours, voilà, de manière à ce que la plante se trouve bien à l'abri. Alors attention, il est évident que ça ne reste en place que pendant vraiment la période de froid. Si la température remonte, si le soleil revient, on découvre la plante. Alors il y a dans le commerce des voiles d'hivernage de plus en plus pratiques, et notamment des housses d'hivernage. Pour ce qui est de grandes plantes, vous avez des housses vraiment très très grandes, avec un zip. Ce qui vous permet donc de
le mettez facilement,
vous mettez votre zip, vous serrez en bas,
et puis
voilà, vous êtes tranquille après. Donc on va les emmitoufler. Alors si on est vraiment dans un cas extrême, là c'est pas encore le cas cette semaine, mais on peut renforcer aussi avec du plastique bulle, et notamment aussi quand vous avez des serres froides ou des châssis ou même une véranda, mettre les plantes un peu sous le plastique bulle quand il va faire très très froid, ça c'est pas mal.
Les agrumes?
Bah, les agrumes, on vient d'en parler, oui, ça fait partie de ceux qu'il faut protéger.
À partir de quelle température, Patrick? Il faut quand même s'inquiéter.
Parce qu'il faut quand même devancer un peu. Ouais, pas sûr. Attendre que la plante ait pris un coup de froid. Mmh. Donc à partir de zéro, vous mettez tout ça en place, évidemment. Et puis, bon, sur les palmiers, les palmiers Trachycarpus, c'est pas la peine. Mais des palmiers comme les phénix, par exemple, là, il y a intérêt à partir effectivement de zéro. Alors là, sur les palmiers, il y a un truc à faire, ou sur les fougères arborescentes, c'est vous resserrez toutes les feuilles, tout le bouquet de feuilles, vous le remontez, vous l'attachez, vous le ficelez. En fait, ça va vous faire comme si la plante, elle avait une grande houppette. Et puis là, vous allez pouvoir passer votre voile d'hivernage beaucoup plus facilement. Et en même temps, vous aurez protégé le cœur.
Mais avec les plantes de petite taille et le légume, n'y a-t-il pas des moyens plus pratiques, en fait,
pour protéger? Fait pas, justement, ce que je viens d'expliquer avec les toutes petites plantes. Hein. Par exemple, si vous avez du muguet ou des roses de Noël, si vous voulez avoir des floraisons un peu plus précoces, parce que ça, c'est des plantes qui sont rustiques. Mais l'avantage de mettre une cloche, par exemple, ça va vous permettre d'avoir comme une sorte de petite serre individuelle. Et là, les plantes, elles vont pouvoir commencer leur végétation. Pour les légumes, écoutez, c'est pareil. On va aussi mettre des tunnels. On va mettre aussi des lits de feuilles, par exemple. Ça peut aussi être très très bien. Il vaut mieux qu'elles soient un petit peu sèches. Et puis n'oubliez pas, tout ce qui est légumes en conservation. Donc par exemple, si vous avez des potirons, si vous avez des pommes de terre, si vous avez généralement c'est des légumes racines. Et bien alors là, les rongeurs.
Ouais. Vous faites bien le rongeur qui.
Oui. Bah oui.
Et oui. Est-ce que on doit craindre aussi l'humidité plus que peut-être que le froid sur certaines plantes?
Évidemment, sur tout ce qui est un peu plante grasse comme les yuccas, comme les cycasses, les cordylines, tout ça. Même sur ce qui est plante de comment on appelle ça de maquis, toutes les plantes de garrigue, voilà, cherchez le mot. Eh bien. Le thym, par exemple, eh bien, ce sont des plantes, le romarin, qui craignent beaucoup l'humidité. Donc là, on va essayer de les abriter ou de leur mettre, alors à ce moment-là, un tunnel, mais qui lui sera étanche, c'est-à-dire un tunnel plastique classique. Et puis attention aussi pour les plantes qui sont en pot ou en bac, s'il n'y a pas un excellent drainage, placez-les sous des auvents de façon à ce que les intempéries ne remplissent pas rapidement le pot avec de l'eau. Alors ça, des gens qui ont des bacs à réserve d'eau à l'extérieur, par exemple, attention. En hiver, c'est indispensable de les mettre à l'abri.
Le vent aggrave tout ça ou pas?
Eh ben oui, quand vous avez un coup de vent, en général, ça vous fait ce qu'on appelle un ressenti au-dessous, généralement, des températures.
Ce qu'on voit sur les prévisions météo, d'ailleurs.
Hein. Voilà.
Il y a la température
vous
et
avez
le ressenti.
Thermomètre, mais donc il va vous dire zéro. Si vous avez un grand coup de froid, vous avez moins 5 de ressenti. Ça. Alors attention, la plante ressent la même chose que vous. Ça veut dire que le froid n'existe pas réellement, mais elle ressent, et donc elle peut geler. Et donc à ce moment-là, il faut avoir des auvents. On va essayer de faire ça. Et puis attention, les camélias qui sont en bouton, eux sont extrêmement sensibles à cela. Et là, pareil, un petit voile d'hivernage posé dessus, ça va vraiment les abriter avant de risquer la chute prématurée des boutons floraux.
Patrick, dernier petit conseil, est-ce qu'il faut malgré tout arroser s'il fait froid mais sec?
Eh ben oui. Notamment les plantes en pot. Alors au jardin, vous en occupez pas, évidemment, ça, il y a de toute façon des remontées d'humidité, etc. Mais dans les plantes en pot, et notamment les bonsaïs qui n'ont pas beaucoup de terre, quand ils gèlent, la plante peut se dessécher. Donc on va essayer, s'il gèle vraiment dans votre région, pas de rentrer le bonsaï à la maison, mais de le mettre très près de la maison, d'accord, de manière à ce que le pot ne se prenne pas en glace. Et si pendant, on va dire, 10 jours, il n'y a pas une goutte d'eau, ben là vous en mettez un petit peu pour que la plante, bien sûr, puisse s'abreuver.
Simone est avec nous au 32-16. Bonjour Simone.
Bonjour les amis, bonjour les fidèles du week-end.
Bonjour chère Simone.
Bonjour Simone.
Vous nous appelez d'où, chère Simone?
Des Landes.
Des Landes, parfait.
Voilà, oui.
Eh bien écoutez, vous avez Patrick Mulan, rien que pour vous, Simone.
Voilà.
Merci, c'est gentil.
Je vous écoute.
Il a répondu à pas mal de mes questions avec les explications qu'il vient de donner. J'avais beaucoup de lacunes.
Eh bien voilà.
Et votre question, elle porte sur quoi, Simone, s'il vous plaît?
Alors, sur un mimosa que j'ai depuis la fête des mères, en pot et qui a d'assez grandes branches. Il est dans un pot de 20 cm de diamètre, à peu près, donc petit. Je ne l'ai pas replanté et là, il a refait des petites boules, plein de petites boules sur toutes ses branches. Et je me demandais si à la Sainte-Catherine, comme tout prend racine, s'il fallait le replanter parce que c'était mon intention. Alors, dans le sable des Landes, forcément, je voudrais savoir, vous aviez parlé des amendements d'hiver, j'ai rien retenu, parce que aujourd'hui, je vais noter s'il faut le mettre dans du sable, d'abord en terre, s'il est à replanter, ou si toutes ces petites boules ne vont pas peut-être geler. s'il fait très froid ou si je le rentre dans ma serre qui n'est pas chauffée et que je vais chauffer parce que vous avez parlé des serres froides et je ne savais pas que ça pouvait exister.
Bah, une serre froide, c'est une serre que l'on ne chauffe pas ou du moins que l'on maintient juste hors gel, dans laquelle effectivement, par exemple, des mimosas pourraient être tout à fait à leur aise. Alors, dans les Landes, il faut quand même pas exagérer. Enfin, ça dépend où vous vous trouvez, mais normalement, il fait pas extrêmement froid. Il est rare que la température descende en dessous de moins 5. Un mimosa, ça tient autour de moins 6, moins 7 degrés, notamment dans un sol sableux, puisque en fait, là, les racines seront plutôt au sec et donc, du coup, la plante est plutôt plus résistante dans des conditions comme cela. Moi, je le mettrais en terre, mais peut-être pas maintenant. Alors, ça dépend un peu la taille des petites boules, comme vous dites. Les petites boules sont tout simplement...
Les minuscules, elles font 2 mm.
D'accord, parce que, bon, généralement, les mimosas vont fleurir vers le mois de janvier-février. Donc, là, bon, si les boutons floraux, hein, ces petites boules sont des boutons floraux, s'ils sont tout petits, là, vous pouvez planter. Parce que, de toute façon, la plante, elle sera pas vraiment stressée, elle est dans son pot. Ouais. Donc là, vous préparez un bon trou, et qu'est-ce que on va mettre dans du sable, eh ben essentiellement de la matière organique. Donc si vous n'avez pas votre compost que vous faites vous-même, ben vous allez dans le commerce et vous achetez un mélange de fumier et d'algues. C'est vraiment ce qu'on trouve le plus facilement et qui est très très bien. Donc vous prenez pour un mimosa dans un pot de 20 cm, vous achetez un sac de 40 litres et vous allez mélanger avec la terre que vous allez extraire. Et puis bon, il est évident qu'au bout d'un an ou deux, on pourra apporter quand même un petit peu d'engrais, surtout s'il est dans du sable pur. Mais il s'y plaira, parce que c'est quand même plutôt une plante qui apprécie les sols très drainants, plutôt que des sols étouffants, style argilo calcaire, comme on a dans notre région Île-de-France, par exemple. Voilà.
Merci. Merci Simone, et on vous souhaite une bonne journée. On va revenir dans un instant sur AMC, et on va s'attaquer à notre sujet de ce samedi matin. Comment protéger les plantes du froid, et puis surtout, comment choisir son sapin de Noël, parce que ça, on en a parlé il y a quelques instants.
On vient de faire les plantes.
Vous savez qu'il y a deux types de sapins. Il y a les sapins naturels, et puis il y a les sapins...
Nous, on va prendre surtout les naturels, parce que les artificiels, c'est pas top, quand même.
Ben voilà. Imaginez Patrick qui parle d'un sapin en plastique, ça va être difficile. On revient dans un instant.
RMC, 6h-7h.
Ça y est, j'ai acheté mon sapin. Il arrive, j'en suis contente.
Toc toc, qui est-ce? C'est Noël.
Votre jardin.
Regardez comme celui-ci est bien vert et bien vigoureux. Oh,
il pointe le ciel tel le ruat des forêts.
François Sorel, Patrick Mulan.
Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta...
Ah là là, les amis, ben oui, c'est dans combien là? On va dire, allez, 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est Noël. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et parler du sapin et comment le choisir, etc., vous savez que sur RMC, c'est déjà Noël.
Oui.
Entendez cette petite musique enivrante. Et oui, les amis, c'est Noël sur RMC, notre grand jeu de Noël. Et évidemment, le week-end, alors tout au long de la semaine, vous pouvez gagner de superbes cadeaux. Et c'est aussi le cas le samedi et le dimanche, dans ce week-end des experts. Et croyez-moi, la hotte des experts du week-end est pleine à craquer. Et pendant 3 semaines, je vais vous offrir en fait le plus beau des Noëls. Pour participer, c'est très simple. Dès maintenant, vous nous envoyez par SMS au 732-16 le mot Noël, tout simplement. N-O-E-L, voilà, au 732-16 via votre smartphone par SMS. Et après, vous laissez les choses agir. Si vous êtes tiré au sort, on se parle tout à l'heure en fin de Week-end des Experts, aux alentours des 10h-10. Et là, j'ouvrirai une enveloppe qui est à côté de moi. Je peux vous le dire. Et dans cette enveloppe, il y a des cadeaux somptueux. Voilà, ça va être la surprise. On découvrira ça ensemble. Je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc si vous voulez participer à ce Noël, c'est très simple. Vous nous envoyez dès maintenant Noël par SMS au 732-16.
Avec le tréma ou...
Non, non, pas le tréma.
Noël.
Enfin, si vous le mettez, tant mieux. Mais si vous le mettez pas, ça marchera quand même. Voilà. Parce que vous savez, par SMS, pas facile. Toujours le tréma. Ouais. Enfin, tout dépend du téléphone qu'on a. Bon, Patrick, on enchaîne avec le sapin. Comment choisir son sapin de Noël, naturel ou artificiel? En fait, on va parler des différentes espèces, du label rouge, des prix où l'installer et tout ça, quoi.
Voilà, et tout ça et tout ça. Il faut quand même savoir que 5 700 000 Français l'année dernière ont acheté un sapin de Noël, et il y en a qui l'ont acheté 2, puisqu'en fait, il s'est vendu déjà 5 900 000 sapins naturels.
C'est dingue, ça.
Et on observe donc Ouais, une bonne tenue de la tradition. Il y a une petite progression. Et bien sûr, là-dedans, il y a 85% de sapins qui sont naturels.
Alors, juste une petite précision. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour poser vos questions hein, sur les sapins de Noël.
Bien sûr. Bah,
vous avez le spécialiste. Hein. Patrick est là, donc, pour toutes vos questions sur les sapins de Noël. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés en plus. Hein. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour en parler, le 3216, le standard RMC, ou via l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas, on vous attend. Patrick, bon, première question toute simple. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter son sapin, en fait?
Alors oui, et je dirais presque qu'il faut un peu se précipiter, parce que de plus en plus, les achats se font de bonne heure. Il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 42% des achats qui étaient réalisés entre le 15 et 20 décembre. Maintenant, c'est 50% des achats avant le 9. Donc le 9, c'est demain. Hein. Donc en fait, on a intérêt, effectivement, si on veut du choix, si on veut de la bonne qualité, bah pas laisser traîner les choses, parce que sinon, c'est les autres qui auront les meilleurs sapins avant vous.
Eh oui. Alors justement, au niveau du choix, Patrick, quel type de sapin de Noël acheter?
Alors évidemment, prioritairement, c'est pour moi quand même le sapin de Noël naturel. Il est plus écologique, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Les trois quarts des sapins aujourd'hui sont des Norman. Le prix du Norman a vraiment, vraiment baissé. Avant, il était le double d'un épicéa. Maintenant, il est que quelques euros de plus. Et pourquoi le Norman? Bah parce que, en fait, tout simplement, bah, il tient beaucoup mieux, hein, beaucoup plus longtemps. Voilà.
Quelle est la dimension optimale pour un beau sapin de Noël, Patrick?
Alors en moyenne, les gens achètent plutôt entre 1m et 1m50. C'est vrai que ça fait quelque chose de très décoratif, de bien bien équilibré et de pas quand même trop imposant. En revanche, on se rend compte que les plus grands continuent à progresser,
ouais.
Puisque aujourd'hui, plus de 35% des sapins achetés ont plus d'1m50. En revanche, les petits, bah, eux, ont un peu moins la cote. Alors que, bon, par exemple, un petit sapin floqué, si vous n'avez pas du tout toute place, vous avez juste un petit studio, vous mettez sur la cheminée.
C'est mignon.
Voilà, ça peut être mignon aussi quand même.
Voilà, sur la cheminée.
Il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de maison qui ne peut pas recevoir un sapin.
Ouais, c'est ça qui est sympa. Quel est le prix moyen d'un sapin de Noël naturel, tiens, actuellement?
Alors, aujourd'hui, on est autour de 28-30 euros en moyenne pour un Norman et autour de une vingtaine d'euros pour un épicéa. Alors, bien entendu, il y en a des plus chers, ça dépend aussi où vous les achetez. Vous savez que les sapins de Noël, on les trouve dans tous les types de commerces,
oui.
Depuis la très grande distribution jusqu'aux petits fleuristes de quartier. Après, c'est pas
on
le
même
service.
On voit même dans les stations-service maintenant.
Oui.
C'est dingue.
Alors, peut-être que vous pouvez aussi essayer de regarder s'il n'y a pas, près de chez vous, des associations, par exemple, qui n'en mettent pas en vente. Ça peut être aussi intéressant pour jouer la carte de la bonne action.
Patrick, la question que tout le monde se pose, le sapin naturel, est-ce que c'est vraiment un achat bien raisonnable? Est-ce qu'on n'entraîne pas, chaque année, en achetant ces millions de sapins, eh bien de faire une déforestation, d'entraîner une déforestation?
Alors surtout pas, bien entendu, il y a belle lurette que l'on ne coupe plus les sapins de Noël dans la forêt. En fait, on fabrique, entre guillemets, des sapins de Noël, on les cultive, c'est une culture comme une autre, alors qu'il demande un peu plus de temps, puisque un beau Norman, ça demande une dizaine d'années. Vous savez qu'en France, on produit 10 millions de sapins de Noël par an. Ça représente quand même 1000 emplois permanents, 5000 saisonniers, pratiquement 10 000 hectares. Pourquoi est-ce qu'on cultive 10 millions et qu'on en consomme que 5 millions 9? Bah parce que c'est aussi une culture qui s'exporte, parce que les sapins de Noël français sont de très très bonne qualité. Alors, cultiver des sapins, bah écoutez, c'est bien, parce qu'en fait, ce sont des arbres, donc ils vont produire de l'oxygène, ils vont donc contribuer à réguler la proportion de gaz carbonique qu'il y a dans l'air, et puis, une fois que les sapins ont été récoltés, on va les remplacer par une autre culture. Ce qui veut dire qu'on n'entraînera pas un déséquilibre sur les sols. Ça va au contraire les stabiliser petit à petit.
D'accord. Alors c'est étonnant parce que vous dites, Patrick, qu'un sapin artificiel est carrément anti-écologique. Pourquoi ?
Bah déjà, c'est fabriqué en PVC. Alors on peut pas dire que le PVC, même si aujourd'hui on sait en grande partie le recycler, soit quand même un produit extraordinairement écolo. Faut savoir que c'est fabriqué avec du chlore, que lorsque vous brûlez, par exemple, si vous le jetez à la poubelle, le sapin de Noël, une fois qu'il est abîmé,
oui, artificiel,
il va dégager de la dioxine, il va dégager de l'acide chlorhydrique lorsqu'on va le brûler. C'est pas top quand même. Donc si jamais vous avez plutôt tendance à acheter un sapin artificiel et que bon, on va dire ça dure 3 à 5 ans en moyenne. Quand il commence à être tout moche.
Ouais, mais on est commis 3 à 5 sapins naturels, on va dire. C'est sûr que d'un côté, bon, voilà.
Non, mais un sapin de Noël naturel, quand vous allez l'avoir terminé, à la fin des fêtes, il va être broyé, vous allez en faire du compost, vous allez en faire du paillage, voilà, vous n'allez pas le mettre au feu. Et là, c'est pareil, sur un sapin de Noël artificiel, surtout, mettez-le dans la poubelle des déchets recyclables.
D'accord.
C'est-à-dire là où vous mettez vos bouteilles en plastique, parce que il y a des techniques, effectivement, qui recyclent le PVC.
D'accord.
Sinon, c'est 1000 ans.
Oui, c'est 1000 ans. Un sapin en PVC.
Voilà, pour être du PVC en général, pour être détruit dans la nature, il faut 1000 ans.
Ça fait beaucoup.
Bah, ça fait quand même des déchets qui s'accumulent. Ouais.
Pour terminer, Patrick, quel conseil pour acheter un sapin de qualité ? Voilà, j'arrive là dans une jardinerie, dans une grande surface, etc. Comment je vais choisir mon sapin ?
Bon, alors déjà, demandez à votre vendeur qui le sorte du filet. Parce que c'est vrai que pour être en bon état, pour être transporté du lieu de production jusqu'à la jardinerie, les sapins ont été déjà emballés dans des filets. Si vous le prenez comme ça, vous savez pas quelle harmonie il va avoir. Donc vous demandez qu'on vous l'ouvre. Donc le vendeur doit vous ouvrir un peu les branches pour que vous rendiez compte qu'il est bien équilibré. Évidemment, vous regardez la qualité des aiguilles. Si au moment où on le sort du filet, vous avez la moitié des aiguilles qui tombent, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que les couleurs soient brillantes, qu'elles soient vives, que vous pouvez même tirer un petit peu sur l'aiguille si elle est bien accrochée au rameau.
C'est bon,
là, vous êtes tranquille. Et puis, alors là, si vous êtes vraiment sûr d'avoir le sapin qu'il vous faut, choisissez bien évidemment un sapin label rouge. Et oui, ça existe depuis l'année dernière. Vous avez des sapins de Noël qui bénéficient donc de ce cahier spécial, cahier des charges, très rigoureux au niveau de la culture, au niveau de la coupe, au niveau du conditionnement, et ce qui vous assure évidemment une qualité supérieure. Donc un sapin de Noël label rouge, c'est un sapin qui a été coupé plus tard que les autres aussi. Mmh. Il est arrivé dans les jardineries que le 3 décembre dernier. Il assure donc une grande fraîcheur et donc il va vous être on va dire plus profitable, même s'il est un petit peu plus cher. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne idée.
Très bien. Patrick, on va revenir dans un instant. Vous avez des questions sur les sapins de Noël, qu'ils soient naturels ou artificiels. On a évoqué les Normands, mais il y a aussi d'autres variétés. En tout cas, toutes vos questions sur ce sujet. Dès maintenant, on va peut-être encore y consacrer quelques minutes dans un instant. Le 32-16 ou bien l'appli RMC Direct Studio. Et puis on revient aussi sur RMC avec la météo du jardinier pour cette semaine. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, il est 6h47, un grand bonjour à vous qui venez peut-être de nous rejoindre, vous venez peut-être de vous réveiller, bienvenue sur RMC, et je vous rappelle que parallèlement à tous nos rendez-vous du week-end, vous pouvez participer à notre grand Noël RMC ce matin avec un tirage au sort tout à l'heure aux alentours des 10h-10, j'ai cette enveloppe à mes côtés. Je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous serez gâtés. Et pour avoir le droit, le privilège d'ouvrir cette enveloppe et de remporter tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il faut participer à notre jeu. Tout simplement, c'est le jeu de Noël. Vous nous envoyez Noël par SMS à l'aide de votre téléphone au 732-16. Noël par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. On en reparle toutes les heures et j'ouvrirai l'enveloppe et on fera le tirage au sort pour connaître le nom du gagnant. Ce sera aux alentours des 10h-10. Dans l'immédiat, Patrick, c'est Chris que nous accueillons au 32-16. Bonjour Chris.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Chris.
Je suis contente de vous avoir aujourd'hui.
Eh bien, c'est un plaisir partagé,
voilà.
Cher Chris.
Merci, c'est gentil. Bon, alors j'interroge notre ami jardinier Miu Miu. Voilà, parce que je voudrais savoir, j'ai un péché de vigne qui a poussé tout seul, c'est-à-dire je balance toujours quand je mange des pêches de vigne mes noyaux dans le sol. Et ben maintenant il fait à peu près 1m50 de haut, il est très beau. Et j'aurais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, il a des branches qui poussent à la base, voilà, est-ce qu'il faut que je les coupe pour faciliter la montée de l'arbre ? Et j'aurais savoir dans combien de temps il va faire des fruits, des fleurs et des fruits.
Ben, il a quel âge ?
Il a à peu près 3 ans à peu près.
Et il a jamais rien donné ?
Non, il n'a rien donné encore.
Mmh. Ouais. Pas terrible tout ça.
Pas terrible.
Bon, non mais ça arrive parfois sur des plantes issues de semis que la mise à fleurs elle soit assez pénible, on va dire. Il faut parfois 6 ans, 7 ans. Il y a même des plantes de style glycine ou autre qu'il faut 15 ans pour avoir une fleur. Parfois, certains même ne fleurissent quasiment jamais. Donc, il y a deux solutions. C'est-à-dire, soit on est patient, soit on ne l'est pas et à ce moment-là, on le greffe. Donc, dans ces cas-là, il faut... Sur un arbre qui a 3 ans, on est presque obligé de faire une greffe en couronne. Il fait quoi comme diamètre, le tronc?
Oh, il n'est pas énorme, hein. Il est, je ne sais pas moi, comme une pièce de 5 centimes à peu près.
Ah oui, il n'est pas vigoureux du tout.
Ah bon, il est tout maigre, maigre.
Oui, mais par contre, il est très beau.
Une pièce de 5 centimes, le tronc?
Ah oui. Oui. Par contre, il est très beau, il avait des feuilles, il n'était pas malade, rien du tout.
Non, ça c'est déjà ça. Alors bon, s'il y a plusieurs tiges qui partent de la base, à ce moment-là, effectivement, pour que justement la tige principale grossisse et prenne de la solidité, il va falloir enlever les autres, c'est-à-dire en garder qu'une, ou peut-être deux, au cas où il y a un petit problème, mais il ne faut pas laisser une touffe se faire, parce que sinon, ça va pas le... produire ce qu'il faut, et puis c'est tout pour l'instant, après il faut regarder l'important c'est aussi qu'il pousse pas trop en hauteur. Si jamais il fait qu'une tige qui part comme ça, faut rabattre un petit peu la tige de manière à ce qu'il se ramifie, parce que c'est toujours sur les ramifications, jamais sur le tronc principal qu'on obtiendra les fleurs. Donc ça peut jouer aussi un rôle important. Après, il y a aussi l'exposition, hein. Si il est vraiment placé par exemple en plein vent, vous pouvez
il
avoir
est à l'abri.
Voilà,
s'il est à l'abri, bon, on est dans le Gers, il est en plein soleil tout le temps et il est dans un jardin en contrebas. Et tout autour, c'est de la forêt, donc il est à l'abri là.
Bon, voilà. Taillez-le peut-être. Bon, en cette saison, pas encore, mais je veux dire vers le début février, retaillez la tige principale d'environ un quart de la longueur.
Ok.
Pour, encore une fois, créer une ramification. Puis après, il faut l'équilibrer pour qu'il vous fasse un arbre qui tienne la route, quoi.
Non, mais les fruits, c'est pas pour tout de suite, là, non?
Les fruits, il peut fleurir dès le mois de février, on sait jamais.
Ouais, d'accord.
Ça se voit, d'ailleurs. Peut-être pas encore en ce moment, mais disons, d'ici un mois, normalement, s'il va fleurir, vous aurez des boutons floraux, ça se verra, hein.
Oui, d'accord. Par contre, j'aurais une autre question à vous poser. Vous dites toujours que les arbres à noyaux, il faut pas les tailler. Mais j'ai planté il y a 6-7 ans un prunier et ils montent tout en hauteur. Toutes les branches sont à hauteur, très grandes.
Ouais, alors le truc, c'est plutôt de faire ce que je disais à l'instant. Voilà. C'est-à-dire qu'il vaut mieux intervenir sur les arbres à noyaux, sur des jeunes sujets. 6-7 ans, c'est pas encore dramatique. Mais l'idéal, ça aurait été de le conduire petit à petit. De manière à ce que, justement, vous coupiez sur des petites branches. Plus les branches seront grosses sur des arbres à noyaux, plus vous allez créer des écoulements de gomme, moins la plante va accepter. Et notamment le prunier. Hein. Bon, le pêcher est l'arbre à noyaux qui se taille le mieux. Les autres, généralement, on les laisse un peu tranquilles. Mais, encore une fois, couper un peu la tête en ce moment, pour le prunier, ça sera pas trop mal.
Allez, merci beaucoup Chris. On enchaîne avec la météo du jardinier maintenant sur RMC. Nous sommes le 8 décembre 2018. Patrick, qu'est-ce que nous prévoit Météo France pour les jours qui viennent? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour notre jardin?
Alors déjà, demain, on aura une journée extrêmement venteuse. On aura pratiquement sur tout le territoire entre 60-75 km/h jusqu'à 100 km sur le Pas-de-Calais. Et après, ça va se calmer un petit peu et ces vents sont orientés ouest et donc ils entraînent évidemment à la fois de la douceur puisqu'on aura jusqu'à 18 degrés à Nice demain, mais on aura évidemment des précipitations pratiquement partout sur le pays. Donc demain, c'est pas vraiment une journée pour jardiner. Ensuite, on va avoir une accalmie sur les vents, mais petit à petit, les températures vont se mettre à baisser, puisqu'en fait, on perdra environ 1 ou 2 degrés par jour jusqu'à la fin de la semaine, avec, à partir de mardi, des gelées assez sérieuses, notamment en Rhône-Alpes, on aura des moins 3 sous-abri, et on n'aura plus que le matin des 2 à 4 degrés au lever du jour, avec sous-abri, ce qui veut dire pratiquement des gelées blanches un petit peu partout. Donc, ça sera un peu plus sec mardi, donc on pourra d'abord mettre les plantes frileuses sous abri, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, mercredi, Il n'y aura pas trop de pluie, donc ça sera l'occasion de faire des tailles de saison, par exemple. Et puis, si vous aimez jardiner avec la lune, attention, on vous dit, il faut pas jardiner mercredi, parce que comme la lune, elle a apogée, c'est une catastrophe. Jardiner, tout va mourir. Non, c'est un clin d'œil que je vous dis, simplement. Et puis, on aura retour des vents forts à partir de jeudi, et toujours des petits matins assez frisquets, hein, jusqu'à moins 4 degrés à l'intérieur des terres. Donc là, on n'aura pas des journées très, très agréables. Et puis, vendredi, alors ça devrait être une journée fortement pluvieuse. Alors, tout ça, je dis, ça devrait, parce qu'en fait, c'est des indices de 3 sur 5 météo, donc ça peut être un petit peu différent. Mais enfin, sachez que vent, à partir de jeudi, prend assez fort. Donc, c'est pas des grandes, grandes journées pour faire des activités
pour jardiner
extérieures. C'est pas bien grave.
On décore le sapin pendant ce temps-là.
Exactement, de préparer Noël, ça sera plus sympa.
Allez, Patrick, pour terminer rapidement, vos coups de cœur de ce samedi matin.
Alors, un livre déjà que je vous recommande qui s'appelle Zoom sur la planète, c'est Les merveilles de la nature au fil des saisons. C'est un collectif qui a été créé par notamment Disney Nature chez Glénat. C'est un très très beau livre à 35 euros et qui vous permet d'avoir une histoire tous les jours sur quelque chose de la nature. Donc on vous dit par exemple que le 4 janvier c'est l'apparition des premiers personnages, que le 10 janvier au Paraguay vous avez les Victoria Amazonica, vous avez ces grosses nénuphars avec comme des moulatartes qui se mettent à fleurir, etc. Donc il y a des plantes, il y a des animaux et c'est vraiment vraiment très beau parce que les images alors, sont à tomber par terre. Donc ça s'appelle Zoom sur la planète, les merveilles de la nature au fil des saisons. C'est un très très beau cadeau pour les petits et pour les grands. C'est chez Glénat. Et puis dernière chose, je vous conseille, si vous êtes dans la région parisienne, d'aller vous faire un grand plaisir à Thoiry, parce que bon, non seulement, bon, c'est peut-être pas la meilleure saison pour voir les animaux, mais en revanche, il y a Lumière Sauvage. C'est quoi Lumière Sauvage? C'est 600 sculptures lumineuses géantes. Il y a notamment un dragon qui fait 65 mètres de long. Il y a un temple de 17 mètres de haut. Donc, quand vous êtes en Chine, à partir de 18h le soir, là, tout d'un coup, ça prend des aspects extraordinaires. Il y a aussi un spectacle, puisqu'en fait, il y a des acrobates, etc. Et puis, vous pouvez vous faire des petits cadeaux parce qu'il y a des artisans chinois. Moi, j'ai adoré. J'y suis allé la semaine dernière. C'est waouh! Quand vous voyez ce dragon de 65 mètres, là, youh!
Et bah justement,
mais alors, il y a 600 sculptures. Hein.
Et puisque vous parlez de ça, il y a aussi un truc très sympa si vous êtes à Paris. C'est au Jardin des Plantes. C'est des espèces en voie d'illumination. C'est très, très beau. Vous avez
un peu le même esprit.
Voilà.
Mais avec des animaux préhistoriques.
Exactement. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, il faut y aller à la nuit tombée, bon, ce qui est pas trop compliqué en ce moment.
C'est le moment, ouais.
Mais c'est très très beau. Alors c'est un peu cher, hein. Je crois que l'entrée est à 15 euros. Bon, pour si on y va en famille, c'est quand même un sacré billet. Mais franchement, c'est très 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 impressionnant. Patrick, on se retrouve la semaine prochaine.
Et on viendra la semaine prochaine. On reparlera jardin. Je vous embrasse mes petites jardinières et surtout ma petite jardinière. Et je vous dis à la semaine prochaine.